thème que m'a demandé le père, c'est le missionnaire au chapitre. Alors je me présente, Jean Phil. Moi je suis, vous m'avez peut-être vu l'année dernière déjà, non?
Oui.
Qui ne m'avait pas vu l'année dernière déjà? Ouais, il y a plein de nouveaux, c'est bien. Alors, comment est-ce que je suis venu au chapitre? En fait, mes parents habitent au Barou. Et j'étais ami avec quelqu'un qui est devenu moine au monastère. Et quand j'avais 17-18 ans, on m'a dit, viens, tu verras, c'est sympa le chapitre. Bon, on m'a menti, hein, parce que c'est l'horreur, mais c'était sympa. Et j'y suis resté longtemps. Vous voyez, j'y suis toujours, puisque le père m'appelle encore. Alors, le père m'appelle pour des sujets divers et variés. Là, cette année, il m'a demandé de parler un peu de la mission du chapitre et être missionnaire au chapitre, être missionnaire dans sa vie. Je ne suis pas un modèle de chrétienté, hein, une personne ne l'est, je pense, mais bon, moi, pas plus que les autres, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être tous missionnaires. Donc, je ne vais pas vous donner de recettes miracles, mais je vais d'abord vous expliquer. Alors, vous voyez, j'ai fait un plan la semaine dernière, je l'ai gardé dans ma poche. On va d'abord voir pourquoi, et ensuite on va voir comment. Et on va voir aussi ce qu'il ne faut pas faire, ou éviter de faire. Donc voilà, missionnaire au chapitre. Alors, éviter l'entre-soi. Le but de la mission du chapitre, c'est aussi éviter l'entre-soi. Ce n'est pas seulement sauver des âmes, ça on le verra plus tard. C'est aussi éviter l'entre-soi. Vous avez ici une magnifique illustration. Alors, je ne connais pas cette joyeuse famille, mais quand on tape Cato Tradi sur Google, voilà la photo que j'ai eue en premier résultat. Donc, vous avez le petit là qui est habillé en tyrolien, hein, c'est mignon comme tout. La maman qui a son petit châle au cas où il y a une messe impromptue, elle est déjà couverte, c'est parfait. Là, il y a les triplés. L'âne, parce que voilà, toute famille Cato a un âne, hein, c'est bien connu. Et lui, là, le père, qui a une coiffure à la brosse faite à la tondeuse, parce que ça coûte moins cher, et son fils a la même. Voilà. Alors, évitez l'entre-soi. Est-ce que vous pouvez voir où est l'entre-soi dans cette famille tradi? Ça vous saute aux yeux ou pas?
Ils ne se mélangent pas au reste de la population.
C'est ça. Quand on habille son fils en petit tyrolien, c'est qu'on n'est pas... Enfin, voilà. Hein, je pense qu'il n'est pas inscrit au club de foot du village, ce gosse. Et maman, châle sur la tête, elle a l'air très sportive et en pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle, mais je pense que si elle frappe chez vous en vous disant « je vais vous parler de Jésus », vous n'allez pas forcément la laisser rentrer. Voilà. Donc, c'est aussi éviter l'entre-soi. Le pape François parle d'aller vers les périphéries. Alors, le chapitre, il y a un moment, il faut avoir des ambitions de ses moyens. Et c'est pas parce que je dis ça, non pas parce que vous ne pouvez pas convertir des musulmans ou, je ne sais pas, des esquimaux à l'autre bout du monde. C'est juste qu'il faut avoir, il faut garder les ambitions de son lieu et voir là où on peut taper. Et taper, toc-toc, hein, pas taper avec, sur les gens. Le pape François parle d'aller vers les périphéries. Et je trouve que cette expression, elle est très à propos. Qu'est-ce que c'est que les périphéries? Périphéries, c'est les gens que vous avez tout autour de vous, qui ont été baptisés ou pas, qui entendent parler de Jésus, de spiritualité et autres. C'est quelqu'un qui fait du yoga pour se recentrer sur lui-même, se redécouvrir et ouvrir ses chakras. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la périphérie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pose des questions auxquelles vous pouvez apporter des réponses. C'est aussi quelqu'un qui a différents messages, qui est confus, qui ne comprend pas les différents messages que la société lui envoie sur la foi, sur le christianisme en général, et que vous pouvez aller voir. C'est ça aussi, éviter l'entre-soi, c'est aussi aller vers des gens qui en fait sont sur le bord, et vous regardent, et aller oser dire, venez voir ce qui se passe. Ne pas être des chrétiens de canapé, c'est toujours le pape François, je veux que vous sortiez, je veux que l'Église descende dans les rues. Alors descendre dans les rues, c'est une très bonne idée. On va voir comment le faire mieux que d'autres. Hein. Descendre dans la rue, ça ne veut pas dire se balader avec un t-shirt « Jesus loves you » et distribuer des chapelets aux gens. Hein. Alors, ça marche rarement. Apporter la parole en étant habillé en chrétien parfait comme la petite famille Ingalls là ici. Mais c'est pas la famille Ingalls, c'est un truc de vieux ça. Vous savez, dans la petite maison de la prairie, ils sont... laissez ça aux bonnes sœurs et aux prêtres en soutane. Parce que, enfin, moi d'expérience, je vous le dis, à Avignon, j'ai une amie qui est sœur, elle est habillée en sœur. Quand elle descend la rue, on met une demi-heure à descendre une rue qui devrait prendre 5 minutes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'approche et qui lui parle parce qu'elle est habillée en bonne sœur. Donc, en tant que chrétien laïc, ce n'est pas notre rôle non plus de se mettre une grosse croix autour du cou et de dire « Jésus est là, Jésus est là ». Les prêtres en habit et les bonnes sœurs et autres le font mieux que nous. Cette obligation est enracinée dans la volonté de Dieu et transpire sans cesse dans le Nouveau Testament. On y passe directement. Là. Alors, vous avez ici une icône de
c'est
Saint Paul. Exactement, merci. Alors, la mission dans les évangiles. Je vous lis dire, je fais ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire je vous lis un PowerPoint et après on en parle. Cette obligation est enracinée dans la volonté de Dieu et transpire sans cesse dans le Nouveau Testament. NSJC, notre Seigneur Jésus-Christ, voilà. S'adresse au légionnaire. Le légionnaire, c'est la parallèle, c'est pas une parabole d'ailleurs, c'est l'évangile. Avec les légionnaires, c'est vraiment parlant. Enfin, moi, c'est une de mes préférées aux diverses classes de Palestine. Le légionnaire, c'est, vous savez, celui qui vient voir Jésus en lui disant « Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Parce que moi, quand je dis « soldat va », le soldat va. Quand je dis au soldat « viens », et je connais le poids de la parole, et je pense que tu peux guérir mon serviteur. Et tous les apôtres qui sont autour, qui sont évidemment des Palestiniens, enfin des gens de Palestine, des Israéliens, vous appelez que ça comme vous voulez, lui disent « non mais ça va, le légionnaire c'est un occupant, il est méchant, tu ne vas pas l'aider ». Et Jésus dit « si, je suis venu pour lui, je suis venu pour lui, toi qui n'as pas la foi, toi qui n'es pas juif, rentre chez toi, ton serviteur est guéri, parce que tu as cru en moi ». Voilà. Donc vous voyez, dans les évangiles, on voit, Saint Paul lui-même, c'est un apôtre tardif, on l'appelle l'apôtre des gentils. Alors c'est parce qu'il était gentil, hein, c'est l'apôtre des non-juifs, les gentils, je précise pour ceux qui se posaient des questions. Et des nations, il est lui-même converti tardif, c'est-à-dire que dans les évangiles, il arrive assez tard. Il y a même, alors maintenant on se pose des questions là-dessus, vous en parlerez au Père François de Sales, hein. Est-ce qu'il a lui-même persécuté des chrétiens ou pas? Selon la tradition, oui, des fois non. C'est pas sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est allé prêcher à l'étranger, prêcher à des gens qui n'étaient pas juifs. Donc Saint Paul, c'est l'apôtre de la mission par excellence. Plus que Saint Pierre, plus que d'autres. Parce qu'il s'est vraiment tourné vers les Grecs. Alors le terme, quand on dit c'est tourné vers les Grecs, il faut imaginer que on est dans un bassin méditerranéen post-Alexandre le Grand. Donc, et grec, toute personne qui se réclame de culture grecque. Donc vous pouvez avoir des Grecs en Égypte, des Grecs à l'autre bout, vers le Pakistan là-bas. Il y a des Grecs partout. Et n'est pas grec forcément quelqu'un qui vit à Athènes, c'est de culture grecque. C'est la période hellénistique, donc ce sont des gens qui sont de culture grecque, qu'on appelle les Grecs. On aurait pu dire des Romains, on aurait pu les appeler des Grecs, par exemple. Voilà. C'est au terme vaste. Et là, vous connaissez ce monsieur? C'est Don Gérard. Alors, des exemples très récents. Alors, vous allez me dire, mais Don Gérard, il est décédé, il n'est pas très récent. Oui, mais pour moi qui suis vieux, il est très récent. Alors, parce que voilà, je l'ai connu de son vivant, enfin, je l'ai connu de son vivant comme tout le monde. J'ai fait ma confirmation avec, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est aussi ça la mission, enfin, vous voyez. J'ai fait ma confirmation avec Don Gérard, et c'est bien de vous faire un petit témoignage pour illustrer comment ça marche. J'ai fait mon catéchisme dans le village, dans mon village normal. Et dans mon village, après la communion, les gens faisaient leur profession de foi. Et après la profession de foi, on enchaînait avec la confirmation. Et ma maman m'a dit, tu as 10 ans, la confirmation, ça se fait quand on est un peu plus vieux, tu la feras quand tu auras vraiment envie d'être chrétien. Donc après, je suis allé au collège, tout ça, puis j'avais pas envie de faire ma confirmation. Et finalement, je l'ai faite quand j'avais 20 ans, j'étais à la fac, et j'avais choisi mon ami comme parrain de confirmation. Et j'ai été confirmé par Don Gérard. Alors vous allez me dire, quelle magnifique histoire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est parce qu'en fait, tout cela vient de Don Gérard et du Père Muard. Le Père Muard, c'est le père qui a fondé la congrégation dont est issu le monastère, parce que oui, c'est un monastère bénédictin, mais qui vient aussi d'une autre congrégation. Au XIXe siècle, il entend des voix, on va appeler ça comme ça, il est inspiré par le Sacré-Cœur, et il se dit, il faut que je fasse une congrégation. Alors au début, il y va, ça marche moyen. Et en fait, finalement, assez rapidement, ça marche, il lance sa congrégation de bénédictins. Et Don Gérard s'inscrira dans cette droite ligne. Vous allez me dire, mais vous n'en venez toujours pas à votre histoire de confirmation. Et bien, c'est parce que Don Gérard est parti. Alors ce n'était Don Gérard et Saint Thomas, puisque, voilà, religieux. Quand il était jeune, il faisait du théâtre, il faisait des bêtises, il était comme tout le monde. Hein. Et il est parti en mission. Il est parti en Amérique latine, il est parti en France, il est allé voir des gens, Après Vatican II, il est allé voir des gens pour essayer de fonder le monastère, d'abord à Bédouin, ensuite ici. Il est allé voir des chrétiens très pratiquants et des chrétiens moins pratiquants, voire des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens. Demander de l'aide, et il était comme vous et moi. Hein, à 18 ans, pour avoir rencontré des amis de Don Gérard quand il était au lycée-collège, il vous dit, à 18 ans, on n'aurait jamais pensé qu'il était moine, qu'il serait moine. Hein. Il faisait que des bêtises, c'était un ado normal. Peut-être un peu plus intelligent que l'ado moyen d'aujourd'hui, mais quand même un ado normal. C'est pourquoi les Pères du Barreau donc, prêchent à l'extérieur pour convertir le monde et non bénéficier du message de l'Église dans l'entre-soi. Alors, contrairement à ce qu'on pensait, les moines bénédictins, c'est la contemplation et la prière l'objectif numéro un. Mais beaucoup de moines de l'abbaye vont à l'extérieur, prêcher ailleurs, par exemple au pèlerinage de Chartres ou autre. Et donc Gérard, en fait, a donné le feu vert au père François de Sales pour parler de notre père fondateur. C'est bien, il écoute comme ça sur le message. Ça. Il voit que je dis du bien de lui. A accepté la fondation du chapitre en dehors du pèlerinage de Chartres parce qu'il y a l'œuvre de mission. Il n'y aurait pas eu l'œuvre de mission, il aurait peut-être refusé qu'il y ait des jeunes qui viennent dans le monastère, qui n'ont rien à voir avec des moines, qui n'ont pas de vocation à être là. Donc tout ça pour en venir à, par exemple, moi, qui ai fait ma confirmation au monastère. S'il n'y avait pas eu Don Gérard qui croyait en cette œuvre de mission du chrétien, et qui n'avait donc cru dans le projet du chapitre, je ne serais pas là. J'aurais jamais été invité, j'aurais jamais dormi à la miellerie, j'aurais jamais rencontré personne. Et j'en reviens à mon message de départ. Don Gérard, malgré toutes ses qualités, ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire sorti de nulle part. Charles de Foucault, quand il était jeune jusqu'à la moitié de sa vie, vous n'aurez jamais pensé qu'il allait convertir qui que ce soit. Hein. Ce n'est pas extraordinaire. Convertir quelqu'un, c'est bien sûr, il y a une intervention de l'Esprit Saint, il y a une grâce, mais c'est à la portée de tous. Il ne faut pas croire qu'il faut être habillé en blanc et aller chez les Zoulous pour convertir quelqu'un. Alors, deuxième, pourquoi l'obligation de mission ? L'obligation missionnaire. L'assistance à personne en danger. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cette notion d'assistance à personne en danger, c'est le danger de l'âme, évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui se voit, non, très concrètement aussi, hein, quelqu'un que vous voyez se perdre avec des mauvaises fréquentations, aller vers la drogue ou je ne sais quoi, vous n'allez pas le laisser partir. Hein. Les vrais amis ne laissent pas les autres amis faire des bêtises. Donc il y a ce danger-là, il y a aussi le danger spirituel, évidemment. Vous ne pouvez pas laisser des gens partir vers des espèces de croyances, on va en voir d'autres, par les espèces de dérives que ça peut donner. Il est de notre devoir non seulement d'en parler, mais d'en être réellement les apôtres. Après, je le case maintenant, je le répéterai, il ne faut surtout pas baisser les bras. Quelqu'un qui vient au chapitre, ou à une réunion, ou à quelque chose, une fois, que vous ne revoyez jamais, ce n'est ni du temps perdu, ni un échec. Quelqu'un qui est venu une fois, qui a entendu parler du Christ une seule fois, 20 ans plus tard, il peut y revenir. Parce qu'il rencontrera quelqu'un d'autre. Parce qu'il rencontrera peut-être un père. Ou il aura une situation dans sa vie où il se dira, je me rappelle qu'on m'avait parlé de ça. Je me rappelle que j'avais eu cette petite lumière à ce moment-là. Peut-être que je reviendrai. Moi, expérience personnelle. Alors, je ne sais pas si j'ai sauvé son âme, je ne pense pas. Enfin, voilà quoi. J'étais à un mariage une fois. Et il y avait un monsieur d'origine asiatique. Il était chinois, je crois, vraiment. Ouais, je crois qu'il était 100% chinois. Et on se retrouve à la fin du mariage, et il me dit, mais c'est la première fois de ma vie que je suis allé à la messe. Et je lui dis, mais t'es déjà allé dans une église. Il me dit, ouais, mais en touriste, je savais pas de quoi ça parlait, quoi. J'ai dit, donc cette messe de mariage, c'est la première fois que tu vois une messe. Il dit, oui. J'ai dit, mais dans ta famille, vous êtes quoi? Alors il me dit, un truc, j'ai oublié, mais c'était même pas bouddhiste, c'était vraiment assez particulier à sa région, quoi. Et j'ai dit, mais donc tu t'es jamais intéressé à Jésus, même juste te balader dans la rue, te demander ce que sont ces statues de dames habillées bizarrement, quoi. Et il m'avait dit, ben non, en fait. Et on avait passé un long moment à discuter de ça, quoi. Je vous dirais, je ne l'ai pas ramené au chapitre, hein, déjà parce qu'il était trop vieux, déjà, de un, et deux, parce qu'on n'avait pas le temps, il avait sa vie et autres. Mais au moins, il a eu quelqu'un avec qui en parler. Je ne pense pas qu'il en ait parlé à tout le monde dans le mariage en disant « je ne suis jamais allé à la messe », vous voyez. Il n'a pas fait le tour à un mariage, c'est rarement des discussions qu'on a, hein, entre deux danses et la danse des canards, de dire « au fait, je ne suis jamais allé à la messe, les gars ». Voilà. Donc, vous pouvez être ce petit phare, et ce n'est pas parce que vous avez un nouveau qui vient un week-end, puis que vous ne revoyez jamais, que ça veut dire que vous avez échoué. C'est toujours bien, c'est déjà ça, et plus tard, il y repensera.
Il croisera peut-être un prêtre dans le bus. Il croisera peut-être une bonne sœur. Il verra peut-être une église et il se dira, hein, il m'avait dit que si je me sentais mal, je pouvais aller là. Voilà. Et deuxièmement, si ce n'est pas nous, qui le fera? Alors là, je vous ai choisi deux magnifiques mails, enfin un magnifique mail ici. It's never your successful friends posting the communist quotes. C'est-à-dire, c'est jamais vos amis qui ont du succès qui mettent des mèmes communistes. Hein? Donc, qui? Bah oui, voilà, présent sur Internet. Je n'ai pas besoin de faire un dessin de tous les messages qu'on voit sur Internet, par qui est tenu le net. Voilà, c'est exactement ça. C'est tout ce qui est progressiste et autres qui occupent le terrain. Si on n'y est pas, qui y sera? Et là, vous avez une vraie affiche. Hein, ce n'est pas un troll, c'est une vraie campagne de l'Union européenne. Beauty is in diversity, as freedom is hijab. La beauté est dans la diversité, tout comme la liberté est dans le hijab. Et de l'autre côté, how boring would be the world, everyone would look the same. Comme le monde serait ennuyeux si tout le monde se ressemblait. Célébrer la diversité et respecter le hijab. Et vous avez, ça je ne l'ai pas tiré de Complotist Magazine, hein, c'est de Jean-Marianne ou tout comme ça. Derrière la campagne pro-voile du Conseil de l'Europe, hein, la galaxie des frères musulmans. Donc si nous ne sommes pas là pour afficher notre foi chrétienne, pour donner un message chrétien et dire mais nous aussi nous sommes une diversité, nous aussi notre foi fait partie de la société et représente, mais quelqu'un d'autre le fait à notre place. C'est aussi ça la mission du chrétien. Ça, ce n'est pas une mission politique, c'est une mission de présence. Si vous ne montrez jamais que vous êtes chrétien autour de vous, en dehors du chapitre, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Témoin de Jéhovah, Raélien, les gens passent. Oui.
Mais il a vraiment été mis en ligne,
ça? Oui, oui, il y a eu des affiches de fête et ça a été mis en ligne. C'est une vraie campagne. C'est une vraie campagne du Conseil d'Europe, oui. Voilà. J'ai jamais vu de campagne avec marqué la liberté, c'est le chapelet. Hein. J'ai jamais vu de campagne marqué la beauté, c'est la diversité, la Vierge Marie. Hein. Bon. Ah. Hop. Ici, alors, je vais vous embêter avec des citations, mais tant qu'à faire, c'est toujours bien. Allez-vous-en de loin. Alors, c'est une citation de Saint Matthieu 25, verset 41-46. Allez-vous-en loin de moi, les maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui répondront, Seigneur, quand vous avons-nous vu après avoir faim ou avoir soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne vous avons-nous pas aidé? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront au supplice éternel et les justes à la vie éternelle. Alors on peut prendre au sens littéral, je reviens au principe de, vous savez, assistance à personne en danger. On peut le prendre au sens littéral, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade ou en prison, c'est quelqu'un qui a besoin de mission. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on aille vers lui et lui apporter le message de la lumière de Dieu. Je vous raconte encore une fois ma vie. Hein. J'ai passé quand même pas mal de temps dans les hôpitaux. À chaque fois que j'ai eu un jeune qui est venu me voir en disant « Je représente l'aumônerie, je représente le diocèse, quelque chose, voulez-vous discuter 10 minutes ?» J'ai toujours dit oui. Et ça m'a toujours fait le plus grand bien d'avoir quelqu'un qui dise « Je ne te connais pas, mais je m'intéresse à toi parce que tu es dans le malheur. » Je vous encourage fortement à faire ce genre de visite. Il suffit de s'adresser à l'hôpital et de dire « Bonjour, on vient de tel diocèse, vous venez avec un père. Hein, » En général, il y a toujours un père aumônier dans les églises, dans les hôpitaux publics. Vous y allez, vous demandez et vous pouvez faire des visites certains jours, taper aux portes des enfants, taper aux portes des jeunes ou taper aux portes des personnes âgées. Et dire « Je suis là pour vous voir ». Alors, moi, quand j'étais ado, je l'ai fait. Hein, je ne veux pas me jeter des fleurs. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, des choses géniales. On allait visiter les hospices à Carpentras. C'est à déprimer, à mourir. Hein. Les hospices, c'est les gens qui vont mourir. Donc, c'est-à-dire que pour revenir la semaine prochaine, il y avait d'autres petits vieux. Bah, « elle est où, mamie Gertrude ?»« Bah, elle est morte. » Donc, voilà. Donc ça, je ne vous sortais pas de ça avec un gros smile. Par contre, eux, oui. Et même ceux qui vous envoient bouler, les infirmières nous disaient « Même ceux qui vous envoient bouler, ils sont contents parce que leur famille ne vient pas les voir. » Donc voilà.
Les prisons, bon, c'est une autre chose, hein, envoyez plutôt des adultes et puis il y a des organismes qui s'en occupent très bien. Mais les malades, je vous encourage à faire vos demi-missions dans les hôpitaux, parce que ce sont des gens qui sont en détresse, et leur apporter un peu de bienveillance et de charité chrétienne, il y aura peu de gens qui vous enverront bouler, honnêtement. Donc voilà. Donc c'est à prendre au sens premier, et au sens figuré, évidemment, où on voit l'image du Christ à travers tous ces gens qui demandent de l'aide. Et ces gens qui demandent de l'aide, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, le type qui a un cancer à l'hôpital, qui est en train de mourir du Covid, je ne sais quoi. Ça peut être votre ami qui est devenu gothique, l'autre qui est devenu communiste, et un autre qui se met à mettre des pulls qui grattent parce qu'il se croit écolo-transsexuel. Hein, ces gens-là aussi ont besoin de vous et de votre bienveillance. Et qu'on vienne vers eux en œuvre de mission. Hop. Alors, sauver les âmes, priorité numéro 1, le but de la mission. Le bonheur dans le ciel, on y pense? Oui, non, pourquoi? Vous vivez dans une société actuelle, alors je fais vraiment le vieux schnock à dire ça, mais où on vous dit, ah, le but de la vie, c'est le bonheur. Mais non, en fait, en réalité, le but de la vie, quand ils disent bonheur, c'est jouissance. Hein. C'est une espèce de joie maximum, une dose de dopamine quotidienne. C'est pour ça qu'on a tous ces trucs de réseaux sociaux qui marchent très bien, parce que ça envoie pile poil la dopamine du bonheur qu'on a besoin. Ça appuie sur les bons endroits de votre cerveau. Et c'est ça qu'on cherche. Est-ce qu'on pense au bonheur dans le ciel? Là, 90% des gens que vous connaissez en dehors de votre milieu catho, non, ils n'y pensent pas. Hein. C'est pas du tout à la mode. On n'en parle pas, ou alors on en parle tellement mal qu'ils en font une espèce de truc, oui, je me réincarnerai en chien, voilà. Et je dis ça, c'est un exemple, mais c'est très sérieux. Il y a plein de gens, on fait des stages, il y a des gens qui s'inscrivent à ce genre de choses. Annoncer l'évangile est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, encore le fameux saint Paul. Tout chrétien doit être apôtre, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, le commandement de la charité. Et par le bienheureux Charles de Foucault, dont je vous avais parlé juste avant. Charles de Foucault, missionnaire par excellence. Et Benoît XVI, ne gardez donc pas le Christ pour vous-même, transmettez aux autres la joie de votre foi. Et c'est l'homélie au JMJ de Madrid, soyez donc des missionnaires enthousiastes de la nouvelle évangélisation. Alors la nouvelle évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est un être missionnaire de la joie. C'est un principe qui date de Jean-Paul II à peu près. Benoît XVI l'a remis au goût du jour, donc par exemple, vous voyez au JMJ, être missionnaire de la joie. C'est-à-dire qu'on est dans une société complètement mortifère. Hein, vous l'avez vu pour les joutes verbales et autres, l'euthanasie, l'avortement, le suicide assisté, ce genre de choses, c'est complètement mortifère. La joie dans le monde aujourd'hui, la joie chez les jeunes, où est-elle? On la voit très peu autour de nous. La vraie joie de vivre, l'espoir en l'avenir, une vraie espérance, où est-elle? La nouvelle évangélisation, c'est mettre l'accent sur la joie dans le message christique. Dire, être catholique, c'est être joyeux. C'est à vous aussi de rayonner, de ne pas avoir une tête d'enterrement, de vous habiller en mormon, comme la première famille qu'on vient de voir, et dire, regardez comme je suis joyeux d'être catholique. Ne pas se dire, oh là là, qu'est-ce que ça va mal, on a Macron comme président encore, mon Dieu, l'Europe, oh là là, non, non. Le chrétien se doit d'être donné un espoir, de donner un message de joie. C'est comme ça qu'on rayonne. On attire rarement les gens avec un espèce de message apocalyptique. Venez, on va tous attendre que les extraterrestres viennent nous chercher, et si on se suicide avant, ils viendront plus vite. Hein. C'est, non mais, il y a des gens qui réussissent à embobiner les gens avec ce genre de message complètement pessimiste, triste et néfaste. Alors, lutter contre le relativisme. Alors là, vous avez un magnifique exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour, voilà, excusez-moi, j'ai tiré ça de famille chrétienne, je crois. Bonjour, voilà, excusez-moi de vous pas demander pardon, mais Jésus est vivant, donc c'est assez cool, voilà. Alors déjà, ce garçon, on va dire que c'est un jeune du chapitre, hein, il a bien la dégaine, jeune du chapitre, il a la Bible dans la main et tout, son missel du barou, il est tout content. Il est sur sa caisse en bois et il se dit, bah, je vais faire comme saint Paul, hein, je vais prêcher. Alors déjà, il a un beau panel de gens autour de lui qui pourraient l'écouter, mais qui ne l'écoutent pas du tout. Parce que d'abord, il commence par « bonjour, voilà ». Alors déjà, on ne commence pas par « eux hein. ».
Alors, on commence par bonjour, mais c'est une bonne idée, mais voilà, excusez-moi de vous demander pardon. Ah, je m'excuse de demander pardon, d'excuser-moi d'exister, quoi. Non, déjà, quand on est catholique, on ne s'excuse pas d'être catholique. On ne s'excuse pas d'aller prêcher. On ne s'excuse pas d'être missionnaire. Hein? Ah, excuse-moi de te déranger, mais je voulais te parler d'un week-end au Barou, ça va être bien, on va faire des chapelets. Non, tu t'excuses pas, c'est bien. Viens, on va faire des choses. Des call to action, on dit en anglais en marketing. C'est-à-dire, on appelle les gens à faire des choses. Sur Internet, on vous dit jamais, vous voyez jamais des petits panneaux qui pop à votre figure, là, que vous n'avez pas demandé. Il vous dit jamais, excusez-nous de vous déranger dans votre navigation Google, mais si vous vouliez acheter nos cochonneries, ce serait pas mal. Non, ils vous disent, achetez, clique, fait. Hein, c'est jamais, excusez-moi de vous déranger de pouvoir parler de Jésus, quoi. Donc là, qui on voit? Est-ce que ces gens sont des cibles? Ben oui, ces gens sont des cibles. Et non, ils sont des cibles. Bon, le dessin est de 2015, alors là, ça se voit parce qu'il y a des filles à son casque. Là, vous avez Joe le Rasta. Est-ce que c'est une cible, Joe le Rasta? Oui. Eh oui, pourquoi c'est une cible, Joe le Rasta? Comment vous l'approcheriez, Joe le Rasta?
Parce qu'il est piscano.
Et qu'est-ce que tu écoutes?
Ouais, mais encore?
Mais
non! Eh oui, mais non! Alors, Joe le Rasta, déjà, il s'intéresse aux Rasta. Les Rasta sont chrétiens, je vous rappelle, à la base. Les Rasta croient que Haïlé Sélassié, qui était roi d'Éthiopie à l'époque après la Seconde Guerre mondiale et avant, est le nouveau Messie venu sur Terre. Donc Haïlé Sélassié, quand il a su que les Rasta en Jamaïque croyaient qu'il était nouveau Messie, il a dit non mais délire. Il a envoyé des prêtres orthodoxes en Jamaïque pour leur dire arrêtez vos conneries, c'est Jésus, c'est pas moi. Bon, ils l'ont écouté moyennement, mais les Rasta, quand ils parlent de Babylone dans leurs chansons et autres, c'est parce qu'ils croient qu'ils font partie d'une des tribus perdues d'Israël. Ils n'ont pas tout à fait tort, et donc ils se réclament chrétiens. Jah, c'est Dieu, et ils se réclament d'une des tribus perdues d'Israël. Je vous rappelle que les Éthiopiens sont orthodoxes, qu'il y a des juifs éthiopiens, qu'il y a des églises qui datent du Moyen-Âge en Éthiopie, et que l'église éthiopienne dit avoir l'Arche d'Alliance. Alors, est-ce qu'on l'a vu? Non, mais eux l'ont. Et parade avec dans une grande boîte, personne ne peut la voir. Est-ce qu'ils l'ont ou pas? Mais exactement. Donc, Joe le Rasta, vous pouvez l'aborder. Mamie là, avec ses légumes. Vous pouvez porter son sac. Elle dira que vous allez la voler, mais vous pouvez parler dans son sac. Mamie a de fortes chances qu'elle allait à la messe quand c'était en latin déjà. Parce qu'elle était vivante avant le Vatican II. Donc, ça lui parlera, vous voyez. Et les personnes âgées adorent les jeunes. C'est pas parce que vous êtes dans un groupe de jeunes que vous pouvez faire œuvre de mission auprès des personnes âgées non plus. Alors lui, il a un journal blanc, donc il fait semblant de lire, mais il sait pas lire. Donc vu qu'il sait pas lire, il sera facilement converti. Hein? Et là, vous avez une dame. Alors cette dame, elle a une espèce de chien qu'elle habille de façon ridicule. Donc elle est complètement tournée sur elle-même et sur son petit clébard. Il serait temps qu'elle voie la lumière, hein, cette dame, et qu'elle se recentre sur ce qui compte et non pas sur sa coiffure, son rouge à lèvres et son chien qu'elle habille. Donc ce sont des gens qui sont en quête de réponse aussi. Elle compense le trou qu'elle a dans le cœur et que nous avons tous par son petit chihuahua.
Mais comment on peut l'aborder?
Ah ben, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous expliquer ici comment on aborde les filles. Hein. Alors, le relativisme. Je vous rappelle que le topo, c'était lutter contre le relativisme. Et alors, le relativisme, c'est quoi? Ben là, je vous ai choisi des magnifiques exemples de relativisme. Pourquoi Jésus est un des plus grands prophètes de l'islam? Ça paraît dans le monde, hein, je vous rappelle, le monde, vous voyez, c'est pareil, je n'ai pas cherché loin. Hein. Loin d'être ignoré, la figurine de Jésus est très considérée dans l'islam, blablabla, comme quoi, vous voyez, toutes les religions se valent, Jésus, c'est un prophète, comme les autres, tout ça. Voilà, alors ça, c'est le monde. Le monde est rarement lu par des salafistes, donc c'est orienté vers Jean Gérard... Français dans la Creuse, hein, le monde. Donc, vous voyez, ça, c'est du relativisme à 100%. Autre relativisme à 100%, Noël ne fête pas la naissance de Jésus. Hein, scoop! Alors, ils vont vous dire, oui, c'est les Saturnalia, c'est une fête païenne qu'on a transformée en chrétien. Oui, c'était il y a 2000 ans, les gars. Qu'est-ce que vous me faites un discours là-dessus, quoi? Et en fait, les gens, ça leur rend dans la tête. Ouais, mais tu vois, l'Église, depuis 2000 ans, ils nous arnaquent, ils disent que le 25 décembre, c'est Noël, alors que pas du tout, c'est une fête païenne. Ils zappent complètement le message de Noël, le fait que le 25, le 26, ou deux semaines plus tard, pour les orthodoxes, tout le monde s'en moque, c'est le message qui compte,
c'est la fête de Noël qui compte, c'est pas ce qu'il y avait avant. Hein. Que ce soit une fête de Gaulois qui danse autour des arbres, qu'on a transformé en fête chrétienne, ou que ce soit une fête de Romains qui coupe des têtes à des poulets en invoquant Zeus, tout le monde, c'était il y a 2000 ans, tout le monde s'en moque. Sauf qu'en réalité, par ce genre de message, ils vous disent, voyez, c'est bon, la crèche est abandonnée, faites juste le sapin, ça suffira. Le relativisme. Ici, alors là, c'est magnifique, que des vainqueurs. Juifs, musulmans et chrétiens, trois religions pour un même Dieu, point d'interrogation. Sauf que vous voyez qu'ils se tiennent tous la main, donc la réponse, pourquoi il y a une point d'interrogation, ça pourrait être une affirmation en réalité. Hein. Alors ça, à Berlin, ils ont construit la Maison de l'Unité, ouvrira ses portes à Berlin en mai prochain. Donc c'est en 2018, je crois encore. Donc ici, vous avez un rabbin, là, vous avez un espèce de luthérien, ici, un prêtre catholique, et là, un imam. Voilà. Et ils vous disent, on va tous prier dans le même lieu. Alors, j'ai hâte de voir les fidèles de ce monsieur, rencontrer les fidèles de ce monsieur-là, et ensuite de voir la communauté transgenre luthérienne rencontrer les fidèles de cette communauté de paroisse-là, hein, qui sont tous dans la même communauté. Et quand lui expliquera qu'en fait, les différents personnages des trois autres sont les prophètes de son prophète à lui, je pense que les discussions autour de la table vont être sympathiques. Mais voilà, ça c'est du relativisme encouragé par un prêtre. Il y a quand même un prêtre dans l'eau. Hein. Donc le fait de faire une œuvre de mission, c'est aussi enlever ce relativisme. Dire aux gens, non, il faut arrêter le délire. Hein. Jésus n'est pas un prophète de l'islam. Et la fête de Noël, c'est la naissance de Jésus. Okay. Et là, on finit vers le dernier. Alors là, c'est le millimilo total. Welcome to the first annual Christian Witches Convention. Donc à Salem, aux États-Unis. Voilà. Alors, on se moque des Américains, mais tout ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous, hein, je vous rappelle. Welcome to the first annual Christian Witch. Alors, les sorcières chrétiennes, c'est magique. Ça, c'est, voilà, c'est le mot est juste. Hein. C'est magique, les sorcières chrétiennes. Alors, pour elles, vous voyez, c'est magique, elles se font appeler sorcières chrétiennes et considèrent la Bible comme un livre de sorcellerie. Mais oui, bien sûr. Et cette dame, je pense, va à la messe. Et après, brûle des bougies et invoque je ne sais quel démon pour transformer des gens en grenouilles. Voilà. Alors vous riez, moi je parle d'expérience, si vous regardez bien autour de vous, ce genre de choses se répand comme une traînée de poudre. Dans mon quartier à Avignon, j'ai trois boutiques qui vendent soit des espèces de pierres magiques pour ouvrir ses chakras, faire des potions, des trucs. Une dame qui vend, j'ai deux boutiques qui vendent des tarots et des objets médiums et autres. Et j'ai là, sur les 15 derniers jours pendant les vacances, j'ai vu deux pubs passer pour des meetings médiums, communication avec les animaux, parler avec les morts, ce genre de choses. Ça, c'est exactement le genre de gens, quand Benoît XVI, ou non, c'est le pape François parle de la périphérie, c'est exactement ça, c'est les gens qui sont à la périphérie. C'est-à-dire, ils pensent, ce sont eux qui réfléchissent à dire il y a un bonheur après la vie, sauf que le bonheur après la vie le trouve dans la pierre magique et le chaudron sorcière, alors qu'ils auraient pu le trouver chez nous. Voilà. Et c'est là que nous devons faire œuvre d'assistance à personne en danger. Parce que vous doutez bien qu'à un moment, cette dame, elle arrêtera d'être chrétienne et elle deviendra juste sorcière. Voilà.
Monsieur ?
Ouais.
Par rapport à juifs, musulmans, chrétiens,
ouais.
Quand Saint Jean-Paul II embrasse le Coran, ouais. Comment on peut réagir à ça
Mal. Vous réagissez mal. Ouais. Que voulez-vous ? Enfin, c'est comme quand ils amènent la statue de la déesse ouais, amazonienne au Vatican et qu'on la fout à la rivière. Comment voulez-vous réagir à ça ?
Hein ? Mais comment on peut se dire, enfin, comment même le Saint-Jean-Paul II le fait, parce que c'est quand même dur de répondre à un musulman qui.
Alors après, son geste, Saint-Jean-Paul II, bah, il est saint. Hein. Après, c'est parce qu'il est saint qu'il ne fait pas des choses. Tout à fait parfaite, hein, tout le temps. Après, on peut le voir comme un symbole de paix, mais c'est sûr que ça mène au relativisme, en effet. Parce qu'en tant que chrétien, on se dit, mais finalement, s'il fait ça, c'est qu'on est un peu pareil. Puisque, en tant que catholique, par exemple, on peut aller à la messe orthodoxe et communier. Donc, je me dis, tiens, peut-être que si un prêtre fait ça, je peux aller voir une prière avec un imam, et puis c'est bon, c'est comme si je disais un chapelet, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est comment est-ce qu'on réagit ? Ben, on réagit un peu mal quand même. Alors, je suis enregistré, le père François Salle donnera peut-être une autre réponse, mais c'est la mienne. Là, à
Alors, éviter le mélange des genres. Alors, vous avez ici le titre de... C'est dans je ne sais plus quel site, je ne sais pas, j'ai dû trouver ça sur un site, enfin, bref.
Le Fintone.
Sur
Le Fintone.
Ouais, un truc dans le genre, exactement, ouais. Les nouveaux croisés d'extrême droite. Alors, vous savez, vous reconnaissez, là, il y a Papacito, Jean-Baptiste Marché, un prêtre qui tire à la carabine, enfin, bon, il y a plein de trucs. Ils sont catho tradis, ah, tiens, c'est nous, vous voyez. Accro à la baston, bah, c'est encore nous, ça. Et fan d'armes. Enquête sur ces militants d'extrême droite, parfois en soutane, qui veulent repartir en croisade armés de fusils, blablabla. Pourquoi est-ce qu'on arrive là? Bah, parce qu'il y a le mélange des genres. Et je vous le dis, je l'ai dit à l'autre groupe, je le répète, ne mélangez pas les genres. Le chapitre, alors je ne tiens pas les clés du chapitre, hein, ce n'est pas moi qui suis détenteur, il y a tout le monde. Le chapitre ne doit pas être un lieu de mélange des genres. Le chapitre n'est pas l'endroit où on se demande où est-ce qu'on va voter Zemmour ou Le Pen. Hein. Le chapitre, c'est l'endroit où on se dit où est-ce qu'on va en camp d'été, à quelle heure on fait le chapelet, à quelle heure on va à une messe, et quel topo on va faire samedi prochain. Si vous mélangez les genres, vous êtes ouvert à ce genre de critique. Voilà. Il faut que la seule critique qu'on vous fasse, c'est « vous êtes chrétien ». Ah, mais t'es trop catho. Bah, tant pis. Je suis trop catho, bah, tant mieux, c'était le but. Il ne faut pas qu'on vous critique sur autre chose. Parce que là, le problème, c'est que leur message à eux, il est complètement noyé dans le reste. Et vous vous retrouvez avec ce genre de critique qui va vous tirer dans les pattes. Ça va vous revenir dans les pattes. Oui.
Mais du coup, pour ne pas mélanger les gens, ça, on peut le faire au chapitre.
Oui.
Et quand on est au lycée, par exemple, du coup, c'est plus difficile de ne pas assumer, par exemple, ses idées politiques et en même temps sa religion.
Ah oui, mais justement, c'est là qu'est toute la subtilité de raison garder. Il faut vraiment voir quelle est votre priorité. Est-ce que quand je suis au lycée, ma priorité, c'est d'essayer d'être chrétien et d'amener les autres vers moi? Ou est-ce que quand je suis au lycée, je suis un militant de l'Action française ou autre? Je cite des noms comme on cite différentes pubs, vous faites ce que vous voulez. Mais après, il ne faut pas s'étonner si on se retrouve avec ça. Le chapitre, le but, c'est clairement le catholicisme. Ce n'est pas les croisés d'extrême droite. Même si je suis d'accord avec vous, c'est complètement mensonger, ça ne veut rien dire, les croisés d'extrême droite, ils vont aller en croisade contre quoi, enfin bref. C'est complètement mensonger, mais malheureusement, quand on mélange les genres, c'est le genre de mélange qu'on arrive. Après, en face, vous avez l'autre mélange des genres, ici. Pete Buttigieg, alors je ne sais pas comment on se prononce, Buttigieg on va dire, candidat à la présidentielle américaine, gay, chrétien, progressiste. Alors lui il coche toutes les cases, hein, c'est Camoulox, bing bing bing. Il est gay, chrétien, oui peut-être, je pense qu'il est... Voilà. Ben, lui aussi il mélange les genres, hein, il est comme la sorcière chrétienne. Il mélange les genres et le problème c'est qu'il le fait à son avantage à lui de mélanger les genres. Lui, il peut se... lui jamais il aura un titre comme ça sur lui quoi, vous voyez. Lui, c'est... Ouais, mais d'ailleurs, vous remarquerez l'ordre des mots. Il est gay avant d'être chrétien. Hein? Et progressiste après. Parce qu'il est chrétien, bon, c'est quand même pas très bien, mais hey, progressiste, chrétien, progressiste, ça va, quoi. Il va pas à la messe en latin non plus, quoi. Ça va, ça va. Donc voilà. Je comprends votre questionnement, parce qu'on l'a tous eu. Hein. Moi aussi, j'ai eu 16 ans, j'étais là, machin, bon. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société ultra-médiatisée, ultra-réseaux sociaux et compagnie. Et il faut vraiment que la seule critique qu'on puisse vous faire, c'est « Ah ouais, mais je t'ai vu dire un chapelet contre l'avortement. » Et la réponse, ça sera « Oui, mais c'est une œuvre de chrétien. J'ai pas fait ça parce que je suis militante autre. » Ça sera « Je suis militante catholique. » Et donc, dans le catholicisme, on respecte la vie. Voilà. Et si on vous le reproche, eh ben tant pis. Mais c'est votre fierté de ce qu'on vous le reproche. Alors que si on vous le reproche parce qu'on vous a mélangé à autre chose... au skin du coin, machin, qui veut vous emmener dans son groupe de faf. Très bien, c'est rigolo le week-end, mais si jamais ça ressort, bah vous aurez le même titre. Alors que votre œuvre, à la base, c'était « Vous étiez en mission ». Voilà. Alors après, je sais, l'autre groupe m'a dit, il y a eu un jeune qui m'a dit « Mais regardez, on va en parler après. » Il dit « Ouais, mais regardez, les espèces de fap de mon lycée, ils disent « Ah bah ouais, mais tu rentres bien dans le genre de gens que je veux connaître. » Oui, oui, mais il faut qu'ils veuillent vous reconnaître parce que vous êtes chrétien, non pas parce que vous avez un jour dit je ne sais quoi, quoi. Hein ? J'ai pas besoin de faire un dessin. Ensuite, mais je fais comment ? Ben, je sais pas. Alors, moi je fais comment ? Ben voilà comment je fais, moi. Alors vous allez me dire, moi je suis prof d'anglais. Hein. J'ai pas toujours été prof d'anglais, je vous rassure. Avant je travaillais dans le tourisme, c'était pire. Et donc je suis prof d'anglais. Et comment je fais? Alors en fait, je passe par tous les moyens dévoyés dont j'ai la possibilité de faire. Alors, je suis dans un lycée, dans un collège privé, soi-disant catholique, c'est-à-dire qu'il y a une croix au mur et puis ça s'arrête là, quoi. Et de temps en temps, il y a un prêtre qui passe. Donc ici, on a fait la bataille d'Hastings en papier avec des maquettes. Alors ça se voit pas très bien, j'ai pas de photo de zoom malheureusement, mais bon, vous pouvez voir la population d'élèves que j'ai, c'est-à-dire des gamins de typiques, quoi. Et là, ici, vous avez un petit stand. Alors là, ce sont des guerriers normands, hein, on a fait les rangs, on a refait exactement la bataille en papier, c'était génial. Et là, on a des petits stands avec un moine, un prêtre et autres qui bénissent l'armée. Alors est-ce que c'est moi qui leur ai dit de faire ça? Non. En fait, je leur ai donné des papiers, des petits bonhommes à découper. Il y en a un, alors je crois que c'est celui-là, et il est où? Il est là, Marwan, qui m'ont dit, monsieur, pourquoi il y a des moines? Pourquoi il y a des prêtres sur votre truc? Vous avez des vikings et des normands, mais il y a des prêtres, c'est bizarre. Et j'ai dit, bah, parce qu'ils étaient chrétiens, ils se battaient des anglais contre des normands, ils étaient chrétiens des deux côtés, et donc avant la bataille, ça se faisait de faire des bénédictions, et puis ils venaient avec des prêtres, l'armée normande et l'armée anglaise avaient des prêtres des deux côtés, quoi. Et donc Zinedine et Gabriel ont découpé tous les deux les deux petits stands. Ils ont fait leur petit stand avec des prêtres qui bénissent l'armée devant. Et ils ont trouvé ça super cool. Ils ont dit, mais... Et quand on l'a montré à la directrice et qu'elle a dit, c'est quoi ces trucs? Et bien c'est Zinedine qui a expliqué, bah, c'est les moines qui bénissent l'armée, madame. Ici, vous avez encore des sixièmes. Là, c'était des cinquièmes, les autres. Là, ce sont des sixièmes. Alors, ils sont tout mignons, ils ont des masques, on dirait qu'ils sont malades. Le thème, c'est la petite maison de la prairie. Donc, vous voyez, ils font leur petite classe en papier. J'aime bien faire les trucs en papier, ça coûte pas cher. Là, ils font la classe avec l'institutrice. Alors, vous allez me dire, mais la petite maison de la prairie, quel rapport? Ben, en fait, la petite maison de la prairie, pour les gens qui font l'école à la maison aux États-Unis, c'est le livre numéro 1. Puisque Mary Ingalls, c'était la première survivaliste autonomiste historique. C'est-à-dire que c'est une dame qui pensait que l'État devait laisser les gens vivre comme il veut. Comme ils veulent, et donc elle voulait que les gens soient autonomistes. Par exemple, pour elle, Roosevelt était un afro-communiste avec son New Plan et compagnie. Et donc, toutes les petites histoires de la petite maison à la prairie et la série en elle-même dérivée, c'est que des messages chrétiens, c'est que savoir vivre par soi-même et aussi et surtout un message toujours de charité et d'entraide dans une communauté américaine. Donc là, les enfants, sans le savoir, ils sont en train de découper des petits bonhommes qui aujourd'hui seraient traités d'affreux complotistes survivalistes et catholiques intégristes. Hein, voilà, parce que ils vont à la messe tous les dimanches et puis qu'ils coupent du bois avec des haches, quoi. Troisième manière, à Pâques. Alors, je confesse que je fais aussi Halloween parce que malheureusement, c'est comme ça. Et après, il faut voir comment on le tourne. Alors ici, je vais d'abord passer au bus, hein, comme on dit, Happy Easter. J'ai une petite église, vous avez ici une Bible, une croix, et quelque part il y a Jésus, ah, il est là. Et donc les élèves doivent trouver le numéro avec le bon mot et caser. Je vous avoue que quand Ilias ou Mohamed me trouve Jesus Christ, j'ai un petit sourire, je suis content. Et j'ai jamais eu un seul élève qui m'a dit « qu'est-ce que ça fout là? Moi je fais pas ça, quoi. » Jamais. Ici, vous avez le texte sur Easter, donc c'est Jack qui raconte son Noël, et subrepticement, on Good Friday, alors Noël commence, Good Friday c'est le samedi saint, ensuite vous avez là, on Easter Sunday, donc le dimanche de Pâques, morning, we have a big breakfast, nous avons un gros petit déjeuner, after breakfast, we all go to church, nous allons tous à l'église, et quand on revient à l'école, à la maison, on cherche les œufs en chocolat dans le jardin. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas comme ça que je vais convertir les foules. Non, c'est sûr. Mais parmi mes élèves, il y a des gens qui n'ont ni papa ni maman. Il y en a qui ne sont pas du tout ouverts, ils sont dans un établissement catholique, mais ils ne le savent même pas. Je veux dire, par exemple, le mercredi des cendres, on l'a su le dernier jour, que le jour même, j'ai su qu'il y avait une messe pour mercredi des cendres. Quand j'ai vu une élève qui manquait, je dis, elle est où? On dit, elle est à la messe. Je dis, mais je ne savais pas qu'il y avait messe. Ben, nous non plus, en fait. Donc voilà, ça veut dire comme c'est catho, quoi. Mais c'est le façon... subrepticement de rentrer là-dedans, d'envoyer un message, de rentrer dans le culturel. Et rentrer par le culturel, c'est rentrer dans le culturel après. Voilà. Je ne dis pas que je convertis des foules, je répète. Mais pour vous-même, dans vos activités, vous pouvez mettre une petite dose. C'est une petite dose de temps en temps. et après ça grossit. Hop, et là, alors, je suis allé sur votre site, le site du chapitre. Alors, de mon temps, il n'y avait pas de site. Et là, j'ai pris une photo. Alors, si vous êtes ici, si vous vous reconnaissez, je m'excuse. Bonjour, mon père. Je m'excuse, je vais devoir vous tailler. Hein. Alors, ici, on a la personne avec la plus grande natte du monde qui est en train de prier. On a quelqu'un avec marqué croix sur son t-shirt. Et là, il y a un espèce de frustré de l'armée qui s'est rasé le crâne façon légionnaire, qui l'a dit en vert. Et qui a le short kaki, quoi. Alors lui, il est pris pour l'Indochine, je sais pas ce qu'il fait. Mais autant vous dire que si je le croise, je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il fait. S'il vient me parler de Jésus, je suis étonné quand même. Hein. Elle, avec son truc croix, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà, croix. Alors là aussi, ils étaient là la semaine dernière. Est-ce que vous savez ce qu'ils allaient faire? En les voyant habillés comme ça, est-ce que vous savez ce qu'ils allaient faire? Eh non, même pas. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire un paintball, bravo. Ah ben moi, je ne savais pas. Alors, vous avez ici... Ah, je caricature à fond, hein, ne vous vexez pas, mais j'ai été comme vous, hein, mais bon. Là, il y a, pareil, Joe le Mito avec son tri. Lui, ils ont mis leur plus beau polo pour aller faire du paintball, alors ça, j'ai pas compris. Le pantalon beige de rigueur, hein, regardez vos jambes tous, là, voilà. Le pantalon beige de rigueur parce que Cato tradit pantalon beige, hein. Lui il a mis du bleu parce que voilà. Lui il s'est habillé carrément en vert parce qu'il s'est dit oh là là, Cato, Faf, tout ça, je m'habille en vert, hein, parce que voilà. Et lui c'est un rebelle. Sa maman lui a acheté un pantalon orange pour faire un peu rebelle, mais il a quand même mis une espèce de veste de l'armée vert kaki histoire de dire ouais les gars je suis comme vous, je suis un peu un Faf mais je fais 50 kilos quoi. Donc voilà, c'est magnifique. Donc pantalon tri, coupe de frustrés de l'armée, concours de la tresse la plus longue du monde. Ma question c'est où sont Kevin le jogging, Émilie débardeur, Yann paire de jeans troués et Sophie crop top.
En fait il y a une liste de vêtements, on nous dit venir bien habillé.
Ouais. C'est perdu.
Ouais, ça va pas en jour quoi.
Ah ouais, super.
Mais est-ce que vous allez venir?
Alors, je vous dis pas de changer de style, mais quand je vois des gamins qui vont faire du paintball habillés comme s'ils allaient à la messe, je me pose des questions. Parce que si ça c'est sa tenue de paintball, qu'est-ce que c'est le reste de la semaine? Il est en costard cravate? C'est quoi le délire? Hein? Là, ce pantalon beige et ce t-shirt vert, ça c'est pour aller crapahuter dans les bois. Donc ça veut dire que les autres jours de la semaine, il est en costume trois pièces, il a une cravate, il est bon pour la politique. Voilà. Donc. Nous, de mon temps, hein, du temps des dinosaures, quand on n'avait pas Internet, tout ça, on avait interdit le chèche. C'est-à-dire que vous pointez avec un chèche autour du cou, on disait « Non, mais c'est bon, ton look de facho, tu le gardes à la maison. » Parce que quand Kevin Jogging va venir au week-end, il va peut-être devenir tout pâle en disant « Mais c'est quoi ces mecs ?» Sophie Crop Top, quand elle voit celle qui a la plus grande natte du monde et qui se prépare à faire, je ne sais pas, compostelle à genoux, pareil, elle se dit, mais c'est quoi ces gens? Parce que là, il y a marqué croix, mais je vous parie que sur le t-shirt en face, il y a marqué Jesus loves you dans toutes les langues aussi, quoi. Bon, moi je viens, je pars en courant. Le truc, il est là, mettez-vous à la place des gens. Moi, je vous donne encore des exemples. Le père François Tsal nous avait recruté deux jeunes filles qui étaient vraiment à l'opposé de nous. Je me rappelle, il y en avait une, elle était fan de vampires. Et elle venait au week-end de chapitre. Elle venait au week-end d'équipe et aux sorties, nous faisions des activités toutes les semaines. Donc elle ne venait pas à l'activité si je ne lui enregistrais pas sur VHS, alors c'est vous dire si c'est vieux, sur VHS Buffy Jason de Vampire, il fallait qu'on lui enregistre l'épisode. Et ce qui l'avait le plus choqué au week-end d'équipe, c'est pas les messes en latin, c'est pas l'office en latin, c'est qu'on chante le bénédicité avant le repas. Elle m'avait dit, je comprends pas, vous êtes tous normaux. Et puis d'un coup, avant de manger, on devient une chorale. Et j'avais dit, mais oui, mais bon, voilà. Elle a dit, non, mais les filles, elles sont sympas, hein. Mais alors, le coup de la chorale, là, j'ai pas compris. Je dis, ah bon, parce que les mecs qui se rasent le crâne et qui chantent en latin, là, c'était pas choqué. Non, 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 ça, non. Mais alors, la chorale, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer cette anecdote. Bon, ça a été difficile de... c'est un exemple exactement de personnes qui sont venues plusieurs fois, puis après qu'on n'a plus revu. Mais on pense encore à elle et j'espère que dans sa vie ça s'est bien passé et qu'elle a quand même gardé une petite flamme dans le coin de sa tête. Mais c'est pour vous montrer que ce qui vous paraît normal, et vous vous dites, oh là là, ça, ça va choquer, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Voilà. C'est pas forcément le truc où vous dites, oh là là, mon Dieu, lui, je l'amène, il adore le foot, les mobilettes et machin, je vais l'amener au chapitre, il va péter un câble en 5 minutes. Alors qu'en fait, ce qui va le frapper, ça sera peut-être pas ça. Ça sera peut-être plus la natte qui fait 2 mètres de long, plutôt que le fait qu'on fasse un chapelet à genoux. Vous voyez ? Parce qu'il faut voir le mimétisme. Mettez-vous, enfin, combien parmi vous ont été convertis pour venir au chapitre ? Combien n'étaient pas de famille catholique et sont venus comme ça d'eux-mêmes ? Levez pas tous la main. Hein. Voilà. C'est quand même un petit problème. Je ne sais pas pour critiquer, je ne vous jette pas la pierre parce que je suis ravi de voir que vous soyez nombreux, mais il y a un moment, mettez-vous à la place de ces gens. C'est-à-dire que si vous avez Kevin Jogging qui vient, à la messe, Kevin Jogging sera impeccable. Il ne va pas faire l'idiot parce qu'il veut être bien. C'est son ami qui l'a amené à la messe, il ne veut pas passer pour un idiot. Ce qui va le choquer, ce ne sera pas forcément la messe. S'il voit que tout le monde va à l'office, il va faire comme les autres, il va aller à l'office. S'il voit que tout le monde... Par contre, ne l'amenez pas à un collage contre l'avortement le premier soir. Hein, parce que là, il risque de péter un câble. Oui.
Je me fais l'enquête déjà, mais est-ce que c'est pas aussi à nous d'être choqués par Émilie Débardeur et Kevin Jogging ?
Oui, mais vous êtes censé... Ah ouais, mais alors, justement, non. Parce qu'on n'est pas là pour montrer aux gens qu'on est mieux qu'eux. On est là pour dire aux gens, venez avec nous, vous êtes comme nous. Sauf que vous ne le savez pas encore.
Je pense que ça donne plus envie d'être habillé comme eux que quand je vis dans des bras.
Alors, je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il faut... je ne dis pas que là, il devrait y avoir 4 piercings, les cheveux longs, le t-shirt Satan. Non, je ne dis pas du tout ça. Ce que je dis, c'est penser à l'image que vous renvoyez. Moi, quand je vous dis, vous savez que ça, j'ai mis 5 secondes à la trouver, cette image. Hein. Je me suis connecté sur le site et bam, j'ai vu ça, quoi. J'ai fait, oh, la natte la plus longue du monde, les t-shirts 3x3x3. Ce cliché de fou, quoi. Il y a un moment, quand on parlait des amalgames, vous voyez, là, lui, ce pauvre garçon, qui est en somme toute très sympathique, mais il pourrait être dans le truc des croisés d'extrême droite, là. Vous voyez, on prend sa photo, je m'appelle Huffington Post, je le prends, j'en fais mon poster, quoi. Y a ça aussi à penser. Je suis moins choqué par quelqu'un qui est tout en bleu, tout le monde en pantalon beige, que par des mecs qui se pointent en tri, quoi. Même si c'est pour faire du paintball. Parce qu'il y a cette petite image à côté, quoi. Vous voyez, si vous allez à une veillée de chapitre et que la moitié des garçons sont en tri, je me dis, mais c'est quoi ce groupe paramilitaire ? Voilà. C'est pour ça que les scouts mettent des shorts, hein, parce que ça fait quand même moins peur que des mecs en tri, quoi. Il y a ce petit déclic à avoir. Se dire, qu'est-ce qui peut heurter ? Non pas, on va rien cacher, il faut absolument rien cacher, il faut pas faire, bon alors il y a un nouveau, alors on fait pas de prière, pas de bénédicité, non, alors ça marche pas, il faut surtout y aller, pas y aller avec des gros sabots, quoi. Ne pas dire, bon écoute, gars, si tu viens samedi, tu t'habilles en beige et en bleu, parce que sinon tu rentres pas, quoi. Il faut que tu mettes ta petite tenue de tyrolien comme le petit garçon du début, sinon tu peux pas venir à la messe, quoi. Il faut aussi penser à l'image qu'on donne de l'extérieur, et surtout se tourner, il faut surtout se tourner vers Kevin Jogging. Je veux que Kevin Jogging vienne avec moi le week-end au chapitre, quoi.
Et qu'est-ce que vous faites des gens, justement, qui sont stylés, les gens qui sont comme ça, par exemple, le gars à droite, il est à la réserve, donc c'est un peu normal que c'est comme ça.
Ouais.
Et moi, je sais qu'il y a toute une partie des gens aussi qui est attirée par des gens qui sont...
Ouais, mais ce ne sont pas des gens qui sont à la périphérie. Ouais, ce ne sont pas des gens qui seront à la périphérie, comme dit le pape François. Vous voyez ce que je veux dire ? La dernière fois, l'intervention, il y avait la même une jeune fille qui a fait la même chose que vous. Elle a dit, j'ai des amis qui ont regardé le site du chapitre. Ils ont dit, ah, c'est bien parce que ça a l'air d'être des gens bien. C'est exactement le genre d'amis que je voudrais avoir. Ce ne sont pas des gens qui sont à la périphérie.
Si c'est des néo-cathos, c'est déjà ça.
Si c'est des néo-cathos, c'est déjà ça. Je suis d'accord. Je ne vous jette pas la pierre en disant, ah non, elle s'appelle Marie-Charlotte, n'allez pas lui parler, quoi. Je dis pas ça du tout. Vous voyez, mon message n'est pas dans cet extrême-là. Mais mon message est, n'ayez pas peur non plus d'aller voir Sophie Crop Top. C'est parce qu'elle est en crop top et qu'elle a un look de gothique qu'elle ne peut pas venir à un week-end d'équipe. Vous voyez ? Mais par contre, si vous arrivez devant Sophie Crop Top avec votre chèche autour du cou, votre autocollant Front National, je pense que vous aurez du mal. Vous voyez ? Voilà. Il faut oser. Moi, je me rappelle, je vous raconte encore ma vie. J'avais fait une sortie d'équipe quand j'étais chef. On avait une jeune fille qui était. Ses parents étaient cathos, ils l'avaient amenée parce qu'ils connaissaient Père François de Sales, blablabla. Et elle faisait quelques réunions de temps en temps, bon, bref. Et j'avais un ami, qu'on surnommait Joe. Il avait un afro sur la tête, comme ça, un truc énorme. Il faisait 1m90, donc on ne pouvait pas le louper, quoi. Et il avait en plus un afro, donc ça faisait 2m10 d'afro, quoi. Et comme il était breton et ça faisait 2 ans qu'il était en Sud, il se baladait en short, tong, la moitié de l'année. Et quand il faisait froid, il mettait des bateaux, quoi. Et puis alors, il s'en foutait de son style, hein. C'était des t-shirts bariolés, tout. Et ben, ses parents ont amené leur fille à la réunion. Bonjour, bah tiens, il y a Joe, machin, bof. Et hop, on part faire notre randonnée, ou je sais plus ce qu'on faisait comme activité, c'est un truc super de base du chapitre, quoi. Et le père, le lendemain, m'avait dit, bah, tu sais qu'une fois qu'ils l'ont posé, ils sont vite allés au monastère. Ils étaient allés voir le père François Sarre en disant, dans l'équipe de Dylan, il y a un type là, une espèce de rasta, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et le père lui avait dit, mais non, c'est un ami de Dylan et Louis, Louis qui est moine, enfin non. Il vient à toutes les réunions et enfin voilà, c'est ça la mission du chapitre, c'est d'accueillir des gens comme lui, quoi. Et ils étaient, mais ah bon, mais vous êtes sûr, enfin ma fille, c'est pas vraiment pour être avec des gens comme ça que je la mets. Et oui, mais nous c'est des gens comme ça qu'on cherche aussi. Demandez au père François de Sales s'il mettait des bateaux avec des petits glands et des pantalons beiges quand il est rentré moine. Vous voyez ? Voilà, hein ? Bon. Et avoir des petits glands sur ces bateaux, c'est pas obligatoire. Vous voyez, vous pouvez les défaire. Parce que c'est confortable les bateaux, mais bon, voilà quoi. Voilà, il est là le propos. Il est que. Pensez large. La périphérie, c'est très large. C'est pas juste Marie-Charlotte et Françoise qui ont arrêté le scoutisme il y a 2 ans. Et qui veulent faire autre chose. C'est aussi Kevin Jogging, Sophie Croptop, qui hésitent entre faire tourner les tables ou venir avec vous, et ce serait mieux qu'elle vienne avec vous quand même. Vous voyez, c'est ça aussi la mission. Et si elle vient que 2 fois, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, elle sera venue 2 fois. Mais elle pourra dire à ses copines, ben, j'ai passé un week-end avec eux, j'y suis pas retourné parce que c'était pas mon truc, mais en fait ils sont comme nous, ils sont gentils. Ou c'était intéressant, j'ai appris quelque chose. Vous voyez ? Les deux jeunes filles dont j'ai donné un exemple qui étaient gothiques et qui aimaient les vampires, elles m'ont jamais dit « vous êtes méchant, je vous aime pas, vous avez vraiment des idées bloquées ». Non, non, elles ont toujours dit « on passe des bons moments, mais après elles ont eu du mal à s'intégrer dans le truc ». Mais on a donné une image positive et je pense qu'elles l'auront gardée en tête, cette image positive de l'Église catholique, alors que les gens ont une image très négative par les médias et autres. Vous voyez ? C'est ça aussi la mission. C'est pas seulement c'est pas du marketing pour l'Église catholique, on s'en fout du marketing pour l'Église catholique, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est que le message de joie qu'on doit donner, et que de dire, ah mais rappelle-toi comme ils étaient joyeux. Et bon, la natte la plus longue du monde, ça veut pas dire qu'on n'est pas joyeux. C'est un peu particulier, quoi. C'est bon ? Ça va ? J'aime bien finir par ça, parce que ça choque à chaque fois, c'est bien. Ça frappe. La dernière fois, ça les avait frappés aussi. Ils étaient là, ah, mais monsieur, si j'ai envie de me raser le crâne, tout. J'ai dit, ouais, super, ouais, vas-y, rase-toi le crâne. Ouais. Donc, voilà. Claire-Étienne. Oh, bien, on est d'ailleurs. Vous avez des questions ? Non ? Est-ce que vous avez des questions ?
Oui.
Ouais.
C'était par rapport quand on va voir des malades,
ouais.
Ça vous a plu. Dans les hôpitaux.
Alors, dans les hôpitaux publics, normalement, et dans les cliniques, hein, il y a un prêtre aumônier qui s'occupe de l'hôpital. Chaque hôpital a son prêtre aumônier. Vous contactez l'aumônier, vous lui dites « je fais partie d'un groupe catholique, comment est-ce que je peux aider ?» En général, c'est le même prêtre qui s'occupe de l'aumônerie de la paroisse ou ce genre de choses. Voilà. Et s'il n'y en a pas, parce que dans les hôpitaux, il y a toujours une espèce de petite chapelle, un truc comme ça. Donc vous cherchez vous allez à l'hôpital, vous demandez qui s'occupe de la chapelle, et en général, c'est la personne qui est responsable de ce genre de choses. Voilà.
Et comment on peut venir c'est juste la rencontre avec le malade.
Ah ben alors, moi je vous parle de mon expérience personnelle, hein. Quand on est venu me voir, que j'étais sur mon lit d'hôpital, on a parlé enfin, j'aurais dit que j'étais catho, et la conversation a été très simple, c'est combien de temps vous êtes là, pourquoi, et vous faites quoi dans la vie, et vous pouvez parler de votre vie à vous. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il n'a pas forcément envie qu'on parle de sa maladie à lui. Il a plutôt envie qu'on lui parle de l'extérieur, vous voyez. Voilà. De choses de centre d'intérêt. Et puis vous, mais par contre, vous affichez bien, vous dites « Je viens de la part du chapitre, c'est un style d'aumônerie. » Voilà, parce que le chapitre, c'est toujours un peu difficile à expliquer qu'est-ce que c'est. Le chapitre du pèlerinage de Chartres, c'est quoi? C'est pas vraiment un groupe de scouts, c'est pas vraiment une aumônerie, voilà. Donc vous pouvez expliquer ce que c'est. Et après, vous embrayez sur une conversation normale. Quand on est à l'hôpital, je vous assure que la dernière chose qu'on a envie, c'est que quelqu'un vous dise « Alors le tube, là, puis vous manquez un bras, dis donc, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Non, mais c'est non. Voilà. « Oh, dis donc, t'as 10 ans et t'as pas de cheveux, moi aussi je me suis tondu. » « Non, non, c'est parce que j'ai un cancer. » Voilà, quoi. Non, voilà. Vous évitez ce genre de conversation, quoi. Parce que voilà, non, il faut pas avoir peur de conversations, parce qu'en général, c'est eux qui lanceront le truc. C'est eux qui lanceront le truc. Question ? Non ?
Oui, si, je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut aborder les jeunes et aller trouver, en fait, parce que j'ai beaucoup de mal avec mon équipe à essayer de, à justement apprendre à développer les jeunes des périphéries, et j'arrive pas à saisir comment est-ce qu'on pourrait les aborder. C'est ça, genre dans la rue
Alors, dans la rue, non. Il y a toujours un... Au détour d'une conversation. Eh ouais, mais c'est ça le problème. C'est qu'il faut oser aller vers les autres, quoi. Il faut oser aller vers les autres et après dire, mais au fait, t'es catho. Vous voyez, nous, moi, je sais que quand j'étais à la fac, les gens... Alors, j'avoue que le look pantalon beige, chemise bleue, quand j'étais à la fac, j'avais ça. Hein. C'était comme tout le monde, hein. On y passe tous. Mais souvent, ça étonnait les gens. Ils disaient, mais ils venaient dans mon appart pour boire un coup, prendre le café. Ils voyaient un crucifix, une icône, et ils disaient, mais t'es catho ? Je dis, ben ouais. Et après, mais c'est bizarre. J'imaginais pas. Enfin, je te voyais pas. Je dis, ben pourquoi ? Parce que je suis pas sans cesse à dire Jesus lives, croix. J'ai pas la plus longue date du monde. Mais c'est ça aussi. C'est de dire. C'est pour ça le message de la joie. C'est de dire, mais tu rigoles. En fait, les gens sont toujours étonnés qu'on fasse des blagues, qu'on rigole. Ils imaginent toujours le catho de base comme une espèce de truc austère, quoi. Alors que vous regardez, bah, le père François de Sales et d'autres, ils sont rigolos, hein. Enfin, bon, bah, des fois malgré eux. Mais c'est le message de joie qui fait que les gens viendront vers vous. Vous voyez ? Et puis aussi, aider. Nous, ce qu'on avait fait à la fac, on était 3-4 copains tout le temps ensemble du chapitre, et on était à la fac ensemble. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rejoint l'association de droit et on vendait les livres. Vous savez, on vendait des livres d'occasion, on aidait des trucs, on faisait des activités. Et après, de fil en aiguille, on disait, ben, tiens, toi, t'es un peu tout seul, machin, tu vois que t'es pas trop dans la bande des mecs qui vont en discothèque tous les soirs, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Et après, on ramenait quelqu'un du chapitre. Voilà. Il faut pas être dans le monde. Hein, parce que le message d'être dans le monde, c'est être instagrammeuse et autre maintenant. C'est le diable en personne, quoi. Mais s'intégrer à la vie de là où on est. On n'est pas censé être catholique laïque et être complètement à l'extérieur. Vous voyez, être coupé, faire son métier, rentrer chez soi, faire son chapelet, puis parler à personne d'autre, quoi. Il faut aussi faire partie du monde et après vous passer le message. Parce que s'ils vous connaissent en tant que le garçon qui aide à faire les devoirs, le garçon qui distribue des trucs, le garçon qui aide, c'est quand même mieux que le type là-bas qui s'habille en bleu et qui parle qu'avec des mecs qui lui ressemblent, quoi. C'est ça aussi le souci. Donc quand j'étais à la fac, je donne le contre-exemple, je ne cite pas de nom parce que vous ne le connaissez pas et que c'est comme ça. Il y avait une famille, je vous promets, ils s'habillaient tous pareil, ils venaient à la messe au monastère. Ils s'habillaient tous pareil, ils disaient bonjour qu'aux gens qui connaissaient du monastère. Et la fille me disait bonjour, son frère nous saluait, et je les ai jamais vus parler à qui que ce soit d'autre, alors qu'ils étaient à la fac avec nous, hein, à qui que ce soit d'autre que nous. Et ça s'arrêtait à bonjour, comment ça va, et puis ça traçait, quoi. Je pense pas qu'ils aient converti grand monde. Hein. J'espère qu'ils se sont fait des amis autres, mais dans leur attitude, tout le monde savait qu'ils étaient cathos. Hein. Alors là, par contre, il n'y avait aucun secret. Hein. Mais alors, niveau sociabilité, ouverture de l'autre, c'était impossible. Et c'est pas du tout le but, hein. Il y a un moment, combien de fois on nous a fait la réflexion, moi on me l'a fait la réflexion, en disant, mais tu vas à la messe au Barreau, tu connais le monastère, Ouais. Ah ouais, mais ils ont quand même des têtes. Enfin, si t'es pas en bleu marine, tu rentres pas, quoi. J'ai vu, mais les moines, ils sont pas comme ça. Si vous allez voir les moines à l'accueil, ils vous font visiter, vous pouvez même y séjourner gratuitement, allez leur parler, vous verrez qu'ils sont très ouverts. Et le nombre de gens qui m'ont dit, ah ben oui, c'est vrai, je me suis pointé, j'ai posé des questions, et on m'a répondu, ils étaient très agréables. Mais l'image que ça donnait de l'extérieur, c'était l'entre-soi. Comme on a dit au début, l'entre-soi, le fermé, et il faut éviter ça, absolument, quoi.
Mais par exemple, là, actuellement, moi, je suis dans un lycée catholique,
ouais.
J'ai pas ce contact personnel avec les gens qui sont catholiques. Toute ma classe, ils vont tous à la messe ce dimanche.
Ouais.
Bah, je vois pas où est-ce que je peux aller chercher.
Et bah, il faut faire une autre activité le week-end.
Du porte-à-porte.
Idée. Les marottes, il y a des marottes, pas forcément avec une paroisse, mais il y a des mairies, des
ouais.
Centres de.
Ah ouais.
Juste, et pas seulement des gens de ton âge, mais faites plus de vieux.
Exactement, mais il peut y avoir des jeunes. Enfin, le problème, il est que. Enfin, moi, ce que j'observe auprès des lycéens. C'est que, par exemple, vous savez, pour la fin de l'année, il y a le grand oral et il faut préparer Parcoursup.
Ouais.
Dans Parcoursup, on demande des activités extrascolaires. Moi, dans les élèves que j'ai, il y en a très peu qui ont des activités extrascolaires. Et la difficulté du chapitre, à l'heure actuelle, en 2022, il y a plusieurs choses. Il y a les réseaux sociaux qui font que tout le monde a honte, tout le monde veut se cacher. C'est se montrer, mais il faut aussi se cacher. Parce qu'on veut montrer les mêmes images que tout le monde. C'est individualiste, mais on doit tous avoir la même tête. Le même filtre Instagram, la même tête, le même maquillage, tout le monde pareil. Et l'autre problème, c'est il y a eu le Covid. Donc on a une génération, par exemple, de terminale qui, pendant 3 ans, n'ont rien fait d'eau au week-end. Quand vous leur dites, vous avez fait quoi ce week-end? Ben, je suis resté, j'ai regardé Netflix. Et le chapitre, il faut dire ce qu'il y a. Hein. On est en concurrence avec le scoutisme, mais aussi le foot, le tennis, le volley, toute activité du week-end. Donc, on est quand même en concurrence avec des jeunes qui veulent faire quelque chose de leur week-end, parce que concrètement, c'est ça, qui veulent faire quelque chose de leur week-end et qui ont peut-être déjà autre chose. Moi, de mon temps, on allait vers des jeunes qui ne faisaient rien de leur week-end. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui font rien de leur week-end, le monde les encourage à n'aurait encore plus rien faire. Parce que PlayStation, télé, et ainsi de suite. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être tout seul chez soi maintenant qu'il y a 20 ans. C'est indéniable. Moi, tout seul chez moi, il y a 20 ans, j'avais mon ordinateur, je m'ennuyais. Hein. Aujourd'hui, tout seul chez soi, on a son téléphone, on a l'impression qu'on n'est pas seul. Et je comprends, si vous êtes dans un établissement hyper catho où tout le monde est du même milieu que vous, comment y aller? C'est une très bonne idée. Aller vers des gens, la Croix-Rouge, catholique ou autre, et vous rencontrerez d'autres jeunes qui auront envie de bouger. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers des jeunes qui ont envie de bouger, parce que l'objectif ultime, hein, le boss final, c'est le jeune qui n'a pas envie de bouger, qui n'est pas catho et tout. Alors là, lui, si vous arrivez à le convertir, le PFS vous donne une petite médaille, bravo, tu es un super missionnaire. Mais le jeune qui est déjà actif, qui ne va peut-être pas souvent à la messe en français, ou quoi, il fait partie de la périphérie aussi. Lui aussi, c'est un objectif. Et où est-ce que vous allez le trouver? Bah, ce genre d'activité, exactement, quoi. Oui.
Ils ont l'air intéressés, mais ensuite ils me demandent est-ce que c'est catho. Donc là je leur dis oui parce que je vais pas cacher.
Ouais.
Et d'un coup ils se découragent parce qu'ils se disent bon bah c'est pas pour moi, c'est un truc de catho et dans ce cas-là je serais pas bien.
Mais c'est là qu'il faut jouer sur le personnel. Il faut jouer sur le personnel, dire oui mais tu connais peut-être telle personne qui y va aussi, on fait telle activité. Comme j'ai dit, n'amenez pas le week-end collège, mais amenez-le le week-end cinéma, le week-end randonnée. Ouais, c'est catho, mais tu sais, on n'est qu'entre jeunes. Mettez l'accent sur l'autonomie. Alors, aujourd'hui, les gamins ont peut-être changé, hein, je ne sais pas. Moi, quand j'avais 17 ans, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'être sans mes parents et qu'avec mes copains. Hein. Donc, si vous dites... Hein,
ça va changer.
Voilà. Donc, si vous dites, samedi, viens, on sera avec des copines, on va se balader. Oui, c'est catho, mais on a une activité autour où on est en indépendant, ça se vend mieux. C'est sûr que si vous lui vendez comme activité, alors on va écouter un prêtre nous parler pendant 3 heures des anges et des démons, elle va vous dire j'ai Netflix à regarder, quoi. Vous voyez? Après, il y en a, moi ça m'est arrivé d'avoir des filles qui venaient justement parce que vous avez un topo sur les anges. Hein, parce que je sais pas pourquoi, c'était leur délire, quoi. Mais vous voyez, enfin, il faut appuyer. Je sais que ça fait campagne marketing. Mais c'est comme ça qu'on n'attrape pas les gens avec du vinaigre. Hein. ça fait campagne marketing, je sais, mais il ne faut surtout pas ne pas leur dire que c'est catho, parce qu'ils s'en rendront compte en 5 secondes, donc hein. Et puis c'est le but aussi de s'afficher comme catho, c'est le but, mais il faut aussi appuyer sur ce qui plaît. L'autonomie, l'indépendance, ça plaît. Il y a un moment, il faut le dire. Il faut dire, regarde, cet été, on part en camp 2 semaines. Enfin, vous, c'est quoi, c'est 2 semaines et demie? 3 semaines, bah parfait, encore mieux. On part 3 semaines entre amis, quoi. Alors oui, il y a des temps forts. Oui, il y a un moment, il y a un prêtre qui nous accompagne et tout. Mais en général, les nouveaux dans le chapitre sont les premiers à aller parler aux prêtres qui accompagnent. Moi, de mon expérience, alors ça a peut-être évolué, mais de mon expérience, les nouveaux qui viennent dans l'équipe, quand ils voient un prêtre qui vient parler aux jeunes et tout, ils sont super curieux. Les prêtres sont souvent très très bien accueillis, alors qu'un animateur ou un pilier paraîtra suspect. Remettez-vous à la place du nouveau. Le nouveau arrive, on lui dit, il voit un type qui a 1 ou 2 ans de plus que lui et qui est le chef. On lui dit, bah, c'est lui le chef. Ah, c'est le chef de quoi? C'est quoi cette bande, quoi? Et lui, comment ça se fait qu'il dit à quel moment? Bah, c'est un animateur. Ah, mais alors, il est encore plus suspect que l'autre. Alors que le prêtre, il est indépendant, c'est un adulte, il est rassurant. Souvent, ils vont aller lui parler, alors qu'ils vont se méfier des chefs et des animateurs. Et c'est souvent bon d'avoir dans son équipe un pilier ou un animateur qui ne le dit pas. Vous savez, c'est l'espèce d'animateur sous-jacent, là. Celui qui fait, on a l'impression qu'il fait rien, et en fait c'est lui qui va se rapprocher des nouveaux le plus facilement, et il ne le dit pas qu'il est animateur. On s'en rend compte juste après. Et c'est une technique, parce que c'est vrai qu'on va toujours se méfier, c'est le chef, mais c'est le chef de quoi? C'est quoi cette espèce de groupe secteux où il y a un chef, quoi? Et puis l'animatrice, elle se prend pour ma mère, c'est bon, lâchez-moi, quoi. Non mais, voilà, vous êtes animateur, vous avez passé ce stade-là, mais rappelez-vous quand vous étiez nouveau, l'effet que ça fait, quoi. L'effet que ça fait de se dire, il a le même âge que moi, il est un peu plus vieux, il me donne des ordres, quoi. C'est un peu bizarre. Question là-bas, non? Vous? Non? Là-bas au fond? Non? Question? Voilà, ben, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez faire pause et après je crois qu'il ajoute, non?
Ouais.
Allez, go.